Dans cet audio, je vais vous parler du cas de Anna. C'est un cas que Joe Dispenza cite souvent, notamment dans son dernier livre, Devenir super conscient. Il en est très fier parce que c'est vraiment, vous allez voir, une guérison spectaculaire qui peut donc vous inspirer, vous motiver, quelle que soit la maladie que vous avez, parce que vous allez voir que Anna est quelqu'un qui a été très très loin, comme dans les autres cas, notamment le cas de Joanne. Rappelez-vous cette mère de famille de 59 ans qui avait la sclérose en plaques. Eh bien ici, c'est un peu le même genre de cas. Donc nous avons Anna qui est une psychothérapeute de profession qui travaille à Amsterdam en tant que directrice et membre du conseil d'administration d'une grande institution psychiatrique d'Amsterdam qui fait un bénéfice de plus de 10 millions d'euros par an. Et donc Anna est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa profession, a tous les signes extérieurs de richesse. Et puis, un jour, elle reçoit, je crois que c'est en, j'essaie de voir, en 2007, voilà. En 2007, elle reçoit la visite, de policiers qui sonnent à la maison et qui lui demandent, qui lui disent en fait, que son mari s'est suicidé, qu'il a sauté d'un des plus grands immeubles de la ville et que sa chute, évidemment, a été fatale. Donc, elle a été sous le choc, ça a été un véritable traumatisme. Elle tremblait de manière incontrôlable, elle était figée. Et puis elle et ses enfants ont été choqués, ils sont restés paralysés. Elle a eu une douleur intense dans la tête et en même temps une douleur intense dans les intestins. Et puis elle est évidemment hyper stressée, en mode survie, puisque ce suicide a vraiment lui a fait un choc terrible. Et donc ce stress est un stress chronique dans le sens où elle se remémorait en permanence le moment de cette annonce du suicide, puis elle imaginait le suicide, elle imaginait voilà, son mari qui sautait de la tour. Et donc, vous savez, la nature a créé le stress, enfin, a créé des réactions au stress dans le cas d'un stress qui est court, à court terme en fait. Une fois l'événement stressant terminé, le corps retourne à un fonctionnement normal et dans les heures qui suivent, le corps retrouve de l'énergie et reconstitue ses ressources vitales. Mais quand le stress ne prend pas fin, comme dans ce cas-ci, on va le voir, un stress chronique, eh bien le corps ne se rééquilibre pas. Et donc, en fait, à vrai dire, aucun organisme dans la nature n'est fait, ne peut supporter de vivre dans l'urgence à long terme pendant longtemps. Donc. Et donc, c'est ici Anna qui en permanence, repensait à cet événement, se remémorait la scène où on lui annonçait ça avec les policiers qui vont sonner à sa porte. Et donc, comme vous le savez, le corps ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement imaginaire ou remémoré. Et donc, son corps était en permanence dans le stress, avec en permanence des hormones du stress qui étaient sécrétées, toujours les mêmes connexions neuronales, donc les mêmes pensées en fait qui étaient là, et donc toujours le même contexte chimique. Et donc, on peut dire qu'en fait, elle ancrait involontairement son cerveau et tout son corps dans le passé. Son passé s'inscrivait dans la constitution biologique de son corps. On peut vraiment dire que ses pensées, ses sentiments se figeaient biologiquement dans le passé. Donc tout son corps vivait dans le passé, son corps vivait dans la victimisation, la honte, le chagrin, la culpabilité, le désespoir, la colère, la frustration, de la rancœur, de l'angoisse, du doute, de l'accablement, de l'anxiété, du désespoir, etc., etc. Et en plus, tout son entourage la traitait comme la femme qui a perdu son mari. Elle était en fait la femme dont le mari s'est suicidé. C'était un peu sa nouvelle identité. D'autant plus qu'elle en parlait, elle expliquait, elle justifiait du fait qu'elle n'était pas bien parce que son mari s'était suicidé. Et donc en fait, c'est toujours les mêmes circuits cérébraux qui étaient sollicités ainsi que les mêmes émotions. Et donc, elle se conditionnait en quelque sorte à son insu à vivre dans cet état d'être, dans ce passé en permanence. Et elle se définissait au travers de cette histoire qui lui était arrivée. Et elle n'arrivait pas à en faire un deuil, en fait. D'autant plus que son mari, qui était un avocat prospère, en fait, avait caché le fait qu'il avait sapé toutes les finances familiales. Et donc, elle se retrouvait terriblement endettée. Elle n'avait pas l'argent pour rembourser. Et donc, ce qui a augmenté sans surprise tout son stress émotionnel et mental. Et donc, elle se posait des questions du style, comment est-ce que je vais faire face à tout ça? Comment je vais m'occuper de mes enfants? Comment est-ce que je vais gérer ce traumatisme? Pourquoi est-ce que mon mari m'a quitté sans même me dire au revoir? Comment est-ce que je n'ai pas remarqué qu'il était si malheureux? Est-ce que j'étais une si mauvaise épouse? Comment est-ce qu'il a pu me laisser avec des jeunes enfants? Comment est-ce que je vais faire pour les élever seuls, etc., etc. Puis parfois, il y avait de la colère terrible. C'est un lâche, il n'aurait pas dû se suicider. Il m'a laissé dans un chaos financier. Il ne m'a même pas laissé de message. Je le déteste. C'est vraiment un con. Comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Et donc, il y avait chaque fois une forte charge émotionnelle. Ça, c'est pendant des mois comme ça. Elle était dans ce ressassement. Et puis, à un moment donné, 9 mois plus tard, elle s'est retrouvée paralysée. Donc, en 2008. Elle s'est retrouvée, elle s'est réveillée paralysée de la taille aux pieds, puis à l'hôpital, puis avec un fauteuil roulant, et puis on lui a diagnostiqué une névrite, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux périphérique. Et puis comme on ne trouvait, après plusieurs examens, aucune cause structurelle, pardon, on lui a annoncé qu'elle devait avoir sans doute une maladie auto-immune. Et donc, c'est-à-dire que son système immunitaire s'attaquait au système nerveux dans le bas de sa colonne vertébrale, détruisant la couche protectrice entourant sa nerf. Un peu comme dans le cas de Johan avec la sclérose en plaques, rappelez-vous. Et donc, ça provoquait une paralysie de ses deux jambes. Donc, en plus de ça, elle ne pouvait pas garder son urine, elle ne pouvait plus garder son urine, elle avait du mal à contrôler ses intestins, elle n'avait plus aucune sensation dans les jambes et les pieds, et donc plus aucun contrôle moteur. Donc, ce stress chronique faisait que son corps puisait dans toutes ses réserves énergétiques pour faire face à la menace constante qu'elle percevait. Que le corps percevait dans l'environnement extérieur. Et donc, en conséquence, il ne restait plus d'énergie pour se développer, s'auto-guérir, ce qui compromettait le système immunitaire. Et donc, en raison de son conflit intérieur, son conflit émotionnel, le système immunitaire d'Anna s'attaquait à son propre corps, à son système nerveux. Et ensuite, pendant les 6 semaines qui ont suivi, les médecins lui ont donné un traitement assez lourd à base de très fortes doses de Dexa. Excusez-moi, dexaméthasone intraveineuse et d'autres corticostéroïdes qui pour réduire en fait l'inflammation. Et en raison de tout ce stress de ce traitement, puis de tous ces médicaments qu'elle prenait, tout ça a encore affaibli encore plus son système immunitaire. Elle a contracté en plus de tout ça une infection bactérienne agressive pour laquelle elle fut traitée avec des antibiotiques à haute dose. Et tout ça l'a épuisée évidemment très très fort. Elle est sortie au bout de 2 mois de l'hôpital, mais elle devait se servir d'un déambulateur. Elle n'arrivait plus à de béquilles aussi pour se déplacer. Et elle ressentait elle ne ressentait toujours pas sa jambe gauche, ni elle n'arrivait pas à marcher normalement. Et elle n'arrivait toujours pas à contrôler vraiment bien ses intestins. Elle ne réussissait en tout cas pas à garder son urine. Et donc, en plus, elle devait subvenir à ses besoins avec toutes ses dettes. Elle ne savait plus travailler pour subvenir à ses besoins. Donc, elle était dans une situation financière, vous l'imaginez, extrêmement stressante. Après avoir été paralysée en plus pendant 2 mois à l'hôpital, donc sa mère a dû se déménager, enfin aménager chez elle pour l'aider. Et son état ne s'améliorait pas. Et en 2009, donc 2 ans après la mort de son mari, on lui a diagnostiqué une dépression clinique. Elle s'est mise à prendre encore plus de médicaments. Et ne vous inquiétez pas, enfin, vous allez voir, ce n'est pas encore le pire. Le pire est encore à suivre. Donc son humeur était tellement instable, elle était frustrée, elle passait de la colère au chagrin, elle était devenue irascible, elle était parfois dans la peur, parfois dans la haine, parfois dans le désespoir. Et donc tout ça avait des impacts sur son comportement, ses relations, sa communication, notamment avec ses proches. Elle a commencé à devenir de plus en plus irascible, notamment avec ses enfants. Elle est entrée en conflit avec presque tout le monde. Et évidemment, d'autres problèmes physiques sont apparus, notamment des muqueuses dans sa bouche qui sont devenues ulcérantes, qui sont propagées dans le haut de son œsophage à cause d'une autre maladie auto-immune qu'on appelle lichen planus érosif. Et donc, pour traiter cette maladie auto-immune, il a fallu appliquer des pommades à base de corticostéroïdes ainsi que de prendre des cachets supplémentaires. Et à cause de tous ces nouveaux médicaments, Anna a cessé de produire de la salive, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus manger d'aliments solides, ce qui fait qu'elle a perdu l'appétit. Et donc, elle vivait avec 3 types de stress, hein, le stress physique, le stress chimique, le stress émotionnel. En plus de ça, ce n'est pas fini, mais en 2010, elle s'est mise dans une relation avec un homme, une relation dysfonctionnelle. Cet homme la traumatisait, il était agressif verbalement avec elle et avec ses enfants, il faisait des menaces constantes. En plus, elle a perdu tout son argent, elle a perdu son travail et elle se sentait complètement insécurisée. Elle a même perdu sa maison et elle a dû aménager avec cet homme-là, cet homme qui la maltraitait. Et donc son stress s'est encore intensifié, imaginez encore plus. Et donc ses ulcérations se sont propagées à d'autres muqueuses, et en particulier son vagin, son anus et le bas de son œsophage. Donc son système immunitaire était au plus bas. Elle a été confrontée à différentes maladies cutanées, à des allergies alimentaires, à des problèmes de poids. Puis elle a commencé à avoir du mal à avaler. Elle a commencé à avoir des brûlures d'estomac. Et on a commencé à lui donner de nouveaux médicaments en plus. Pendant ce temps, elle essayait quand même de s'en sortir. Elle a essayé d'ouvrir un petit cabinet près de chez elle, mais elle arrivait très difficilement à travailler. Elle était épuisée. Elle essayait de. Chaque fois qu'elle rentrait, elle s'alitait jusqu'au retour de ses enfants. Elle essayait d'être présente pour eux, mais elle n'avait pas d'énergie. En fait, elle n'avait plus de vie sociale. Et elle fonctionnait un peu comme un robot, de manière en survie en fait. Et tout était chaotique en elle. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle n'avait plus d'énergie, plus d'énergie. Plus de vitalité, je veux dire. Quand elle essayait de faire de l'exercice, son cœur battait à plus de 200 battements par minute. Elle transpirait, elle haletait tout le temps. Et elle ressentait tout le temps une terrible douleur dans la poitrine. On peut dire qu'elle traversait vraiment ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et elle comprenait elle comprenait qu'on pouvait se suicider comme son mari l'a fait. Elle comprenait et elle pensait vraiment qu'elle était au fond du trou, et puis vous allez voir qu'elle n'était même pas encore au fond du trou parce que ça a continué à s'empirer. Et en janvier 2011, l'équipe médicale d'Anna lui a trouvé une tumeur à l'entrée de son estomac et on lui a diagnostiqué un cancer de l'œsophage. Alors évidemment, vous imaginez, la nouvelle de cette nouvelle maladie a encore créé plus de stress dans sa vie. Les médecins lui ont suggéré une chimiothérapie rigoureuse. Et tout ça a continué à renforcer les symptômes de stress, les symptômes physiques. Son stress était à son maximum. Et ce que je raconte, enfin, en tant que thérapeute, je peux vous témoigner que ça arrive à des milliers de personnes, hein. Moi, j'en ai souvent des patients dans mon cabinet qui me racontent des histoires comme ça très très stressantes. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous qui écoutez cet audio pour l'instant, mais vous allez voir que malgré tout ça, il est possible de s'en sortir. Et dans son cas à Anna, c'est que elle était devenue tellement stressée, ses pensées la rendaient malade, son environnement la rendait malade, son corps lui rappelait qu'elle était une personne malade. Et en plus, elle était devenue, rappelez-vous dans le cours, quand on parle de l'addiction chimique aux émotions négatives, elle était devenue quelqu'un de plaintif, qui utilisait les circonstances et sa maladie pour maintenir son identité de personne victime. En plus, donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a commencé la chimiothérapie et ça a été une catastrophe. Après la première séance, elle s'est effondrée totalement, mentalement, émotionnellement et même physiquement. Elle s'est écroulée au sol en larmes et c'est là qu'elle était vraiment au fond du trou. Et là, en étant au fond du trou, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça, elle allait mourir, et elle a commencé à prier, à demander de l'aide. Et c'est là que ça a commencé à changer parce que elle a demandé d'être guidée. Et elle a senti qu'elle devait arrêter tous ses médicaments. Donc elle a arrêté tous les traitements, tous les médicaments. La seule chose qu'elle a continué à prendre, c'était les antidépresseurs. Elle n'est pas allée retourner voir les médecins. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne s'en est inquiété. Seulement son médecin familial, qui était très préoccupé. Et puis, elle a commencé à poser une intention ferme de changer de vie, de ne plus être cette personne victime, malade. Elle a décidé vraiment, avec une énergie très très forte, qu'elle allait changer. Elle a décidé notamment de déménager, de quitter cet homme qui la maltraitait, et de changer, de déménager avec ses enfants. Déjà là, elle se sentait un peu mieux un mois plus tard. Elle sentait qu'elle pouvait recommencer à nouveau à zéro sa vie. Et c'est là qu'elle a commencé à faire les séminaires de Joe Dispenza. Elle était en béquille, mais elle a reçu toute l'information que vous avez reçue dans le cours, à savoir toute l'information sur le pouvoir de l'esprit, sur l'épigénétique, sur la physique quantique, hein, avec le champ quantique. Et elle a vraiment compris qu'elle avait elle-même créé sa propre maladie et que donc si elle l'avait créée, elle pouvait également créer elle-même la santé dans son corps. Et c'est là qu'elle décida de guérir. Et donc elle a commencé à méditer deux fois par jour, pendant des mois et des mois et des mois. Elle en a informé son médecin familial en disant qu'elle avait arrêté tous ses traitements, qu'elle méditait. Alors son médecin l'a traité de stupide, de naïve, et qu'elle allait en mourir, ça allait s'empirer. Alors imaginez une figure d'autorité qui vous dit ça, comme c'est stressant. mais elle en a fait fi, elle a continué à méditer, elle a continué à, malgré toutes ses limitations physiques, malgré ses soucis financiers, malgré sa solitude, elle a continué à méditer et à assister à d'autres stages de Joe Dispenza, un peu comme si vous pourriez, et vous, je vous invite à le faire, à réécouter le cours plusieurs fois. Donc elle a continué avec une grande conviction, une grande force, en sachant que si elle changeait ses pensées, elle changerait également l'état de son corps, notamment en travaillant sur les gènes, en activant de nouveaux programmes de santé. Et pourtant, autour d'elle, elle n'avait aucune raison d'être positive parce que sa réalité tangible n'était pas du tout d'aimer la vie, mais sa réalité était que c'était une femme veuve, déprimée, toute seule avec des enfants, endettée, sans argent, sans travail, atteinte d'un cancer, paralysie, ulcération au niveau des muqueuses, sans partenaire amoureux, sans proche et sans énergie. Enfin, c'était la situation factuelle de l'environnement extérieur. Mais son environnement intérieur était tout à fait autre. Dans ses méditations, elle était beaucoup plus, elle s'orientait vers un avenir plus constructif, vers la guérison. Et elle arrivait à le faire parce qu'elle comprenait, comme vous le comprenez, le pouvoir de l'épigénétique, le pouvoir des émotions supérieures que sont l'amour, la joie, la gratitude, l'inspiration. Elle comprenait tout ça. Elle savait qu'elle pouvait créer de nouveaux gènes qui fabriquent des protéines saines qui vont affecter la structure et le fonctionnement de ses organes, de son corps. Elle a fait ça pendant un an, et il faut dire que pendant un an, écoutez bien ça, pendant un an, sa santé n'a pas beaucoup évolué, mais elle a continué. Ça, c'est la clé. C'est que, voilà, elle a compris en fait qu'elle avait mis des années pour créer cette maladie, et que donc pour créer la santé, ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, donc elle a continué à persévérer. Et ensuite, ça a commencé, après cette première année, à porter ses fruits. Elle a commencé à sentir qu'elle était mieux mentalement et mieux émotionnellement. Elle a cessé de s'identifier à tous ses tourments et elle a commencé vraiment à se créer une nouvelle personnalité. Donc elle a continué évidemment à assister au stage de Joe Dispenza. Et donc elle savait que, ben, elle devait complètement rééquilibrer son système nerveux autonome. Le système nerveux autonome qui, je vous le rappelle, contrôle toutes les fonctions automatiques qui échappent à la conscience comme... La digestion, l'absorption, la glycémie, la température, les sécrétions hormonales, le rythme cardiaque, etc. Et là, elle a utilisé une technique très puissante, une technique respiratoire que je vous ai mis dans le cours numéro 2 en option. Je vous invite à l'utiliser. Ce qu'elle a fait, elle, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque est une technique très puissante qui permet d'agir justement sur le système nerveux autonome, ce qui lui a permis de faire en sorte que son cœur batte de manière plus harmonieuse sur commande. Et donc, si son cœur battait de manière plus harmonieuse, ça pouvait inciter tous les organes enfin, ça envoyait des signaux à tous les organes comme quoi tout allait bien. Donc, le corps pouvait commencer à se réparer. Et elle savait également que les gènes ne créent pas de maladie, mais que c'est l'environnement intérieur du corps qui leur signale d'en provoquer. Or, ici, l'environnement, grâce à ce travail sur la cohérence cardiaque, était devenu harmonieux. Alors bien sûr qu'elle avait toujours des efforts à faire, hein. Elle avait toujours de la colère parfois, de la peur quand elle était fatiguée, parfois elle avait toujours aussi difficile, mais elle continuait à se forcer en fait à ressentir l'amour, la joie, la gratitude. Elle savait que ces émotions supérieures permettraient à son organisme de sécréter des milliers de substances chimiques qui allaient réparer et guérir son corps. Et donc c'était vraiment sa quête. Et elle commençait également à pratiquer la marche méditative, c'est-à-dire qu'en marchant, elle se visualisait déjà en train d'être une nouvelle personne pendant qu'elle marchait. Elle était déjà en avance, elle allait dans le futur et son corps vivait donc dans le futur et non plus dans le passé. Alors ça a commencé vraiment à avoir ses effets, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus calme, elle est devenue beaucoup moins dépendante aux émotions négatives, et elle a commencé à ressentir de nouveau l'amour. Et puis en mai 2012, elle a assisté à un séminaire où il y avait cette méditation que vous avez dans le cours. Et elle avait déjà fait souvent cette méditation, mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de particulier. Et c'est ce qui peut vous arriver si vous la refaites régulièrement. C'est qu'elle s'est abandonnée complètement, elle a fini par lâcher prise, c'est-à-dire qu'en fait, elle a complètement transcendé ses souvenirs. Elle était devenue pure conscience, donc sans identité, sans histoire, sans maladie, sans nom, sans sexe. Sans tout son passé. Elle était vraiment au-delà de l'espace et du temps, reliée à un champ d'information qu'on appelle, comme vous le savez, dans le cours en tout cas, le champ quantique, dans lequel toutes les possibilités coexistent, et notamment la guérison. Et elle s'est vue dans une autre vie où elle donnait cours, dans une grande scène, où elle parlait notamment de sa propre guérison. Et donc, elle a commencé à éprouver une grande joie dans ce qui lui est apparu pendant cette méditation. Elle a commencé à ressentir de la lumière dans son corps, un grand soulagement jusqu'au niveau viscéral, un grand ravissement, une grande gratitude. Elle a commencé à éclater de rire. Et à partir de ce moment-là, elle a su avec certitude qu'elle allait aller de mieux en mieux. Et elle fut remplie vraiment d'une grande confiance, d'une grande, grande confiance. Et les méditations n'étaient plus une contrainte comme avant, comme ça peut l'être pour vous peut-être, pour l'instant, mais c'était vraiment une grande joie. C'était chaque fois une impatience de les faire. Et cette année-là, les progrès au niveau de la santé d'Anna se sont améliorés énormément. Et puis en septembre 2013, les médecins ont procédé à un bilan complet au niveau médical, incluant toute une batterie d'examens. Et en fait, 1 an et 9 mois après qu'on lui a diagnostiqué un cancer, et 6 ans après que son mari s'est suicidé, eh bien, le cancer d'Anna avait été complètement guéri et la tumeur dans son œsophage avait disparu. Ses analyses sanguines ne révélaient aucune trace de marqueurs tumoraux et les muqueuses de son œsophage et de son vagin et de son anus étaient complètement guéries. Bah, extraordinaire, extraordinaire, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Il lui restait juste quelques problèmes mineurs, notamment les muqueuses buccales qui étaient encore légèrement rouges. Et en décembre 2013, elle a décidé de témoigner et s'est retrouvée sur scène en parlant de sa guérison. Donc, ce qu'elle avait vécu dans sa méditation, elle l'a vécu en vrai par la suite. Et puis, et plus tard, elle s'est dit, mais en fait, donc je lis ici, elle a eu un déclic. Voilà, elle s'est dit ceci: je me suis guérie de toutes ces maladies, y compris de mon cancer. Je devrais donc être capable de dire à mes gènes buccaux de produire davantage de salive. Et quelques mois plus tard, c'est ce qui s'est passé après différentes méditations sur ce problème. Eh bien, elle a senti la salive couler dans sa bouche. Et depuis, ses glandes salivaires fonctionnent normalement et les ulcérations ne sont jamais revenues. Et donc, Anna est devenue une personne complètement guérie, tout à fait différente, une autre personne, une autre personnalité. Elle a vraiment rompu avec elle-même, avec son ancien passé, avec son passé, pardon, avec son ancienne personnalité. Et elle est devenue une des formatrices de Joe Dispenza en entreprise. Et en 2016, elle a même fondé une institution psychiatrique qui emploie plus de 20 thérapeutes et praticiens. Et en conclusion, quand on demande à Anna ce qu'elle pense de ses anciens problèmes de santé, elle dit ceci: c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Donc réfléchissez-y, hein. Peut-être que votre pire cauchemar au niveau de votre maladie pourrait être devenir peut-être la plus belle chose qui vous soit arrivée pour vous changer, pour vous transformer. Et si Anna s'est guérie, eh bien, vous le pouvez aussi.